Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de Sequoia. 88.3 Québec, tendez l'oreille, on parle de vous quand vous nous entendez.
Oui, en attendant, on va continuer avec la gâchette avec la nouvelle pièce « Levons nos points ».
Alors, c'était la gâchette. Il reste encore un peu de fond braillard inspiré de la œil et un peu de son garage aussi, inspiré du manque de moyens pour avoir un studio qui a du bon sens. Mais sinon, on dirait presque qu'ils ont appris à jouer de la musique.
Ils sont dans un excellent studio. Ils sont dans Hell's Kitchen à Montréal. Là. Je veux dire, les gros bands enregistrent là.
C'est fait d'abord, exprès. C'est quoi le problème? C'est fait exprès, hein, c'est
exprès.
Ça? Ou alors c'est leurs instruments?
Non, ils ont du bon stock.
C'est fait exprès. Non, mais c'est génial, ça, sérieusement. C'est la preuve que qu'on peut tout faire à partir de la œil et il suffit d'en sortir. Donc, excusez-moi.
D'accord.
Non, mais c'était bien. C'était bien.
Non, mais...
J'ai aimé ça, j'ai eu peur quand t'as dit que c'était la gâchette, mais j'ai aimé ça.
Je suis obligé d'acquiescer avec toi. Faut sortir de la œil.
Ceci dit, il faut aussi, une fois de temps en temps, sortir des lignes de piquetage. Il y a des façons plus heureuses que d'autres d'en sortir. On a appris mardi que les partis syndicales et patronales des maxis de l'Est du Québec, 12 maxis, qui est en grève... 12 maxi, donc, qui est en grève depuis le 22 octobre 2008. On en avait parlé à quelques reprises à l'émission. Il y a eu une entente de principe qui a été conclue. Il y avait une rencontre entre Ben, suite à une rencontre de délégués syndicaux qui ont amené une nouvelle proposition sur la table pour essayer de dénouer l'impasse, il y a eu une rencontre de négociation avec les conciliateurs qui a eu lieu. Et comme dans les films, ça s'est terminé à 1h30 du matin par la signature d'une entente de principe. Et le syndicat a annoncé que l'entente serait unanimement recommandée par les délégués syndicaux aux assemblées générales. Et il y a un calendrier qui est en cours de préparation. Il va y avoir des assemblées générales jusqu'au 9 mars. Et unanimement recommandée, y compris par les délégués syndicaux de deux épiceries qui sont condamnés, qui vont fermer. Deux épiceries, on dit de la région de Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré, est-ce que c'est dans la région de Québec? Moi, j'ai pas l'impression que c'est dans la région de Québec, mais les journalistes disent que c'est dans la région de Québec. Enfin, bref, deux épiceries qui vont fermer. Le maxi du boulevard Henri Bourassa à Charlebourg et celui de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ces deux maxis un peu particuliers, ils ont la particularité, en fait, d'être des anciens Provigo, des épiceries de quartier qui ont pas vraiment bien négocié le virage Maxi. Maxi, c'est une bannière quand même semi-entrepôt, et donc ils ont mal négocié ce virage-là, et donc il y avait des problèmes de rentabilité. D'ailleurs, on le disait quand on a visité les lignes de piquetage avant les fêtes, les gens s'y attendaient à ce qu'il y en ait quelques-uns dans la douzaine. Il y en avait 13 au départ, ils s'attendaient à ce qu'il y en ait au moins 3, en fait, qui risquent de passer.
Ce qu'ils nous expliquaient tout le temps, c'était que s'il y avait des maxis à fermer, c'était déjà dans l'air. Là. C'était déjà prévu qu'ils ferment, mais les patrons s'étaient dit, on va s'en servir, tu sais, de moyenne pression.
Et d'ailleurs, c'était assez hallucinant comparativement au... mettons, quand tu te promènes sur des lignes de piquetage ou de l'industrie manufacturière ou du prolétariat industriel plus traditionnel, avec quelle légèreté les syndiqués sur les lignes abordaient la question de la fermeture des entreprises. Pour eux, c'est comme bof, tu sais.
Ben, job à temps partiel ou pas de job, des fois, il n'y a pas grande différence.
C'est ça, là, c'était comme c'est la vie. Puis la même chose, le président du syndicat, bof, c'est les épiceries qui font un coup d'onde. Il avait pas l'air de trouver que c'était particulièrement grave, ni non plus que ça allait nuire à son image ou quoi que ce soit. Là, ça fait partie de la vie. Là,
c'est compréhensible parce que ça fait des années que les syndicats de ces secteurs-là, de l'alimentation, au fond, se ramassent en gestion de crise permanente. Il y a des menaces. Ah, Walmart s'en vient. Ah, l'Obla, plus
gros. Comme un ayant plus peur.
Maintenant, tu vis avec, puis tu essaies d'aller chercher pareil des gains. Il
semble qu'il y a eu des gains, quand même, disons-le. Bon, là, il y a deux épiceries qui ferment. La troisième, qui devait fermer, ne fermera pas parce qu'elle est rentrée avant, en fait, avant la fin de la grève, et a donc signé pour plus bas. Et donc, ils sont en sursis pour quelques temps.
C'est qui, eux?
Ben, c'est la deuxième à Charlebourg, celle...
Louis XIV.
Oui, c'est ça. Les autres, ils ferment pas. Ils restent ouverts, même si c'est... ils ferment une des deux, en fait, de Charlebourg, puis c'est l'autre, celle qui était restée sur les lignes qui ferme.
Ouais, il faut punir, il faut sévir.
Ouais, ben c'est ça, en fait, les 90 employés qui tombent au combat en chemin. Ceci dit, ils ont réussi à négocier dans le protocole de retour au travail, il y a des primes de départ, puis des primes d'ancienneté. Ils vont peut-être pouvoir, ce sera un dossier à creuser, là, voir s'ils vont réussir à se rendre jusqu'à la retraite et élargir tout ça. Mais bon, bref, toujours est-il que même si on ne veut pas, du côté syndical, épiloguer sur la teneur de l'entente, on comprendra qu'ils veulent... d'abord l'apprendre aux gens qui sont directement concernés, qui auront voté là-dessus, que tu sais, les gens ne l'apprennent pas finalement par les médias. On souligne quand même que sans avoir réussi à aller chercher la parité complète avec les syndiqués de Rivière-du-Loup, on dit qu'on est allé chercher 90% des demandes. Donc j'imagine qu'il y a des gains là-dedans et que c'est probablement qu'ils ont échangé deux fermetures finalement contre des gains sur le reste. Faudra voir, ça va être un dossier à creuser. D'ailleurs, on va le faire dans les semaines à venir pour voix de feuille, pour droit de parole.
Ah oui, c'est la convergence des grands médias de masse populaires.
Oui, mais c'est quelque chose à suivre. Moi, je trouve que c'est quand même assez important. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'indépendamment du dossier des maxis là, qui vient de se terminer et qui quand même, curieusement, là, je dis, bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas réussi à parler à du monde là, et qu'ils perdent leur job, là, mais les gens auxquels les journalistes ont parlé n'ont pas l'air d'être particulièrement frus ou ils sont juste contents que ce soit fini. Là.
Ouais, les gens s'assument. Ouais, ils sont pas « Ah, c'est le syndicat qui a dit ça, c'est le syndicat-ci. » Comme souvent on en entend parler dans les combats ou quoi que ce soit, ils parlent du syndicat comme une tierce partie, comme « c'est pas nous ». Tandis que là, ils se sentent intégrés.
En tout cas, à tout le moins en partie, là, pas tout le monde à qui on a parlé, mais la plupart, en tout cas, bref, ils n'ont pas réussi à trouver personne pour pleurer et dire qu'ils n'avaient pas de bon sens.
Il y avait chien à voir sur Louis XIV.
la seule chose, dernière chose aussi qu'il faut retenir de ça, c'est Sandré Dumas qui disait que en fait, ils ont évalué ce pourquoi ils sont rentrés avec cette entente de principe-là. En fait, ils ne sont pas encore rentrés, ils vont rentrer au fil des assemblées générales, là, c'est à Québec, en fait, que ça va se voter en dernier, là. Dans les faits, là, ils font tout le tour des régions avant de faire les votes à Québec. Ben, c'est à Québec le plus gros groupe, et puis, ben, c'est à Québec aussi qu'il est fermé dessus. Donc.
Ouais. C'est là que ça va se voter. Encore là, ça tente de Beaubré.
Ouais, en tout cas, ouais, on peut en douter. Mais c'est ça, André Dumas, donc, disait que l'analyse des délégués syndicaux, l'analyse du syndicat qui était partagée finalement par les délégués des 12, Maxi, leur analyse était relativement simple, c'est qu'ils regardaient qu'est-ce qu'ils étaient capables d'aller chercher, puis qu'est-ce, la différence avec ce qu'ils voulaient, puis qu'est-ce qu'ils croyaient être capables d'aller chercher, puis ils ont trouvé une espèce de compromis. Puis quand ils sont allés chercher le compromis, ils ont regardé ça, puis ils ont dit, bon, c'est pas exactement ce qu'on voulait, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester 3 puis 4 semaines de plus ces lignes de piquetage pour un demi de point ou point ouais, de point?
C'est aussi l'effet démobilisant, puis tout le kit.
Donc voilà, c'est un dossier qu'on va suivre, qui semble tout intéressant. Il faut juste ressouligner une dernière fois quand même... en fait, deux choses. La première des choses, c'est que disons-le, là, on parle de 750 petits salariés qui se sont tenus debout et qui ont fait grève pendant relativement longtemps.
C'est rendu 660.
Oui.
C'est la dure réalité.
En tout cas, bref, quand même. C'est plusieurs centaines de personnes qui, oui, dans des conditions précaires, ont choisi de se battre en assumant toutes les conséquences. Il faut tirer notre chapeau à ça. Et l'autre chose, c'est que c'est vraiment pas terminé parce que tant du côté des TUAC que de la CSN, il y a toute une trollée de conventions collectives qui arrivent à échéance, et notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où c'est il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. En fait, toutes les épiceries syndiquées de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont en négociation, qu'elles soient à la FTQ ou à la CSN. Donc, c'est un dossier à suivre. Et nous, on va faire la transition avec de la bonne musique.
C'est une spéciale dédicace pour toi, Nicolas.
Ah, c'est encore Kenny?
Non. Hein? C'est quelque chose d'autre, tu verras.
Voici l'histoire bien ordinaire qui m'est arrivée cet hiver. Cette histoire, c'est un peu la vôtre, car elle n'arrive pas qu'aux autres. Un jour, le grand patron m'a dit, vous passerez me voir à mon bureau, monsieur machin, on vous remercie. Et j'ai jamais retrouvé de boulot. Une compression de personnel fut mon dernier cadeau de Noël. Alors tout s'est accéléré, mon existence a basculé. Depuis j'habite rue de nulle part, comme ça, ça m'est tombé dessus. Certains choisissent d'être clochard, moi j'ai pas choisi d'être à la rue. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les règles du grand capital m'ont tout volé, même le vital. Le nécessaire avant l'envie, ma vie est devenue la survie. Ma maison, c'est un carton, d'emballage Ikea. C'est là que je bossais comme un con, avant qu'ils aient plus besoin de moi. J'ai faim marqué sur un panneau, je fais le mendiant dans le métro. Ça fait bizarre, je vous assure, plus voir les gens mais leurs chaussures. Et croyez pas que ça m'amuse, de devoir faire le petit numéro. Du messieurs dame, je m'excuse, une pièce ou un ticket resto. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année, et les joies du camping forcé. Je vous le souhaite pas, mais méfiez-vous, un jour ça tombera peut-être sur vous. Peut-être qu'un jour ce sera votre tour, d'aller crever au pied des tours. L'œil ébloui par la lumière, des grands fabricants de misère. Les belles multinationales, qui font des pauvres et des maudits. Des millions de gens qui crèvent la dalle pour la cinglerie du profit. Et quand arrivera l'euro, vous n'en verrez pas la couleur. Ce seront les mêmes quand on rentre où, messieurs, mesdames, à votre bon cœur. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Alors vous vivrez l'aventure que vivent les nouveaux clodos. Car dans la rue, la vie est dure, la rue ça fait pas de cadeaux. Assis sur le banc de souche, non,
vous n'aurez pas le choix. On vous mènera de force à la douche, et que vous soyez sale ou pas, pour conserver bonne apparence, vous vous raserez tous les matins, et les jours de grande affamance, vous volerez les grands magasins. Un feu rouge pour 10 francs à des gens tous indifférents. Très vendeur du lampadaire, les pommadaires de la galère. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Oui mais je sais qu'un jour viendra, un jour le vase débordera, les pauvres on se réunira. Voilà ce qui arrivera en ayant marre d'être cocu. Nous les exclus de la galette, on viendra prendre notre dû. Cette fois c'est vous qui aurez les miettes. Comme il n'y aura pas d'autre solution, on refera la révolution. Des millions de pauvres dans la rue, ça peut vous foutre un beau chahut. Et on ira pique-niquer sur les pelouses de l'Elysée. Et ce jour-là, planter l'artiche, il fera pas bon d'être trop riche. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec les sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année, et les joies du camping forcé. Je vous souhaite pas, mais méfiez-vous, un jour Satan appelle sur vous.
Là on va redoubler d'ardeur pour botter le cul de tous les patrons inconsidérément. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire.
Écoute,
voix de fait, madame.
De retour sur les ondes du 88.3 à Québec, la radio qui parle de vous. Et donc, Janie, à voix de fait, tu nous arrives avec... Tu es allé faire une enquête en Nouvelle-Écosse?
Okay. En fait, c'est en Nouvelle-Écosse, il va y avoir une enquête publique pour trouver les causes de la mort d'Howard Heights, un Nouveau-Écossais qui était atteint de schizophrénie avancée, qui avait reçu des charges de taser, puis qui était mort 30 ans plus tard. Ça, c'est arrivé en novembre 2007.
Et donc là, il y a enquête publique.
Oui.
Et...
Ben, l'enquête publique, en fait... Ça a commencé les travaux cette semaine, puis ça devrait se poursuivre jusqu'au mois d'août 2009. Puis les groupes qui offrent dans le secteur des maladies mentales, puis tout, ben, demandent aux autorités de réviser leur politique d'intervention dans les cas de suspects souffrant de maladies mentales. Ça, c'est un des membres de Dr. Stephen Ayer de la Société de la schizophrénie de la Nouvelle-Écosse, qui souhaite que les forces de l'ordre puissent reconnaître de tels cas et agir de façon appropriée.
Est-ce qu'on doit comprendre que les nouveaux Écossais ont obtenu ce qu'on demandait à
Claudio Castagnetta
à Québec? Donc c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Ben je sais pas comment tu dirais ça toi.
Les médias ils disent néo-écossais.
Néo-écossais, non, nouveaux c'est nouveaux écossais.
Duplessis sort de ce corps.
Voilà, on dit des Françaisquois. Pourquoi on dirait pas des nouveaux Écossais?
Les Françaisquois.
Ouais.
Où c'est qu'on dit ça?
Ben, les francophones du Canada...
On enchaîne ça avec la parole populiste.
Oui, oui, c'est vrai. Ben, c'est correct, c'est tout bon pour ça. Oui, donc, alors à voix de fait, on vous a parlé régulièrement qu'il se dit des choses qui n'ont pas de bon sens à la radio. Il y a des gens qui ne nous croient pas.
Ah, ils ne nous croient pas, ces gens-là.
Oui, il y a des gens qui n'écoutent pas la radio, ou alors qui écoutent Radio-Canada... CKIA, CKRL, Chiz.
Ils vivent d'une bulle, quoi.
Oui, et ils trouvent que ça a bien du bon sens. Ils lisent Le Devoir, puis... Voyons, ils comprennent pas, toi, pourquoi il y a des conservateurs qui sont élus...
On leur montre.
Ouais. Notre ami François, qui, ma foi, il y a 2000 ans, aurait fini dans la fosse au lion, aurait dû martyr.
Crucifié.
Crucifié. Et un homme... d'une droiture et d'une bonté incroyable et qui a un sens du sacrifice aigu.
Exceptionnel.
Exceptionnel.
Bon, on en a pour 2 minutes de
pour nous, a décidé d'écouter pour nous la radio trash de Québec et d'en sortir les morceaux les plus juteux.
Ouais, on va vous les donner.
C'est à voix de fait que vous l'avez entendu.
Suivi de la pièce manifeste de Shuriken, mais l'important, c'est le PPP.
On est dans un monde libre et des fois c'est trop. Comprends-tu?
Sylvain Fouchard,
Dans les manuels scolaires des écoles secondaires de Québec, il y a 3 pages sur la chef de Québec solidaire, Françoise David. 3 pages où on la présente comme une héroïne. C'est du brainwashage. Les étudiants doivent déchirer ça.
Les gens de Québec peuvent m'aider, je me souviens pas. Puis ils l'ont peut-être fait, là, sûrement même, mais j'ai pas en mémoire que la Fédération des femmes du Québec ait dénoncé Scorpion. Et les petites filles de 14, 15, 16 et 17 ans qui se faisaient vendre comme du bétail à des riches et puissants de Québec. Est-ce que oui ou non, la Fédération des femmes du Québec avait envoyé un communiqué de presse dénonçant Scorpion? Ma mémoire, ça me dit rien!
En réalité, en mars 2004, un communiqué ayant pour titre « Le procès Gilet et les plaignantes sont-elles bien protégées » est envoyé sur le fil de presse par la Fédération des femmes.
Ma mémoire, ça ne dit rien. Mais Bouchard, regarde, ah ouais, puis sexiste, puis ça n'a aucun bon sens, inadmissible, retrait des ondes, des excuses, puis hey! Je pense que la Fédération des femmes du Québec va réagir au retour de Robert Gilet.
Ils organisent des défilés pour se rappeler leur victoire sur les catholiques. Les catholiques, ils ont un peu de classe, ils se lèvent et disent « Je vous passerai pas ». Puis ils garochent des roches, des briques, des cocktails molotov, des bâtons, n'importe quoi. Si le monde, si les Québécois, ils ont un peu d'honneur, ils vont se lever puis ils vont descendre à Québec puis on va leur en faire un party. S'ils veulent avoir un party, on va leur en faire un party. On va leur refaire la reconstitution.
Avec des tartes à crème.
Oui, c'est ça. Des, n'importe quoi, de la marde, du fumier, de la roche, de n'importe quoi. Tout est bon.
Merci, Gaffarin.
Jello.
Je porte cette sale manie du pays dans le cœur, consiste à peine et on est 13% chez toi. Tu voudrais bien qu'on y retourne, hein? Je débarque dans l'univers des nantis, des claques se perdent dans les gueules des dandies. C'est pas le pays de Gandhi, des Gandhi, s'il y en a pas 10, mec, on est au bandit. La France taxe les types au RMI, et ouais, 10% qu'est-ce t'en dis quant à moi? Je bosse à 50 pour l'état proxo, pour l'état de mes droits. Je suis l'une de ses putes préférées, quoi? Avec 10% de ce putain de cerveau, c'est la servitude dans les blocs à Clairvaux. Ou nos ganaches qui servent au McDo, y'a pas l'arrache qui se paye pas un jour. Le 50-50 devient tout nada si tu casses de superbe lifting. Le zézoir n'a pas d'âme, madame. Pleine strasse à Panama, l'assemblée, on ignore ce qui se passe sur le macadam. 20% de mes potes aujourd'hui scam. Y'a plus de révolte en vue. Ce putain de pouvoir achète à quel prix le calme. Sur le terrain de football, ce petit gosse en veut. Mais 99% échouent et nous on prie tout sans Dieu. On est les seuls à croire au Père Noël jusqu'à 30 ans vieux. 80% des gens portent le triple 6 en eux. Marcher sur la tronche des autres pour une big lock et 3 centimes. Possède 50% des richesses du globe, c'est normal. Leur pantin en index sur un bouton. Et ce putain de peuple broute comme un mouton. Chez moi la flamme fait 30% atteint. Je fais mes comptes et ça veut dire qu'il y a minimum un type sur 3 qu'on devra claquer. Très bien au menu ce soir. Fiston qu'est-ce qu'on dit, fini la paix à Marseille. On va rallumer l'incendie. En ce lendemain d'élection, j'ai si peur pour les miens. On prend les devants garçons pour museler les chiens. Un chien de vie destiné à trop de cavales historiques, non. Front de libération de Mars, canal historique, lit dans mes yeux. Trop de rancœur, trop grand cœur, trop con, je suis pas ton chanteur. Tueur collabo, poète planteur, planté au piquet depuis la maternelle. Couvé par le voile de l'amour maternel. On en oublie que rien n'est éternel, ni tes proches. Ni ce qu'il y a dans tes poches, moi j'en ai rien à foutre de la fauche. Heureux quand on accroche des sacoches. Y'a pas de degré d'inclinaison de mon corps. L'inclinaison de ma tête est une réponse directe à l'inclinaison de mon cœur.
Des accusés, ma ville trône, ma trône sénile et curée. Je griffonne ces lignes sur un vieux bout de papier.
Y'a pas de degré d'inclinaison de mon corps. L'inclinaison de ma tête est une réponse directe à l'inclinaison de mon cœur.
Combien de chines connaît pas, je mettrai pas le genou à terre. Je resterai fier au nom de mes frères, je scelle ces mots d'un saut de fer.
Y'a pas de degré d'inclinaison de mon corps. L'inclinaison de ma tête est une réponse directe à l'inclinaison de mon cœur.
Mes phrases dérangent toujours aux alentours. J'arrêterai peut-être le jour où les êtres élus au deuxième tour cesseront de faire les sourds. Donne ma vision des choses par rose aux écouter qui veut la prose et parfois morose. Qu'est-ce que j'y peux, mon âme déclame ce que voient mes yeux. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime écrire, ce que j'aime entendre. Des textes vrais sur des faits qui donnent envie de rendre. Faut pas vous méprendre, le délire loue mon cerveau à l'année basané. Je perds pas de vue ceux qui veulent m'étendre. Prêt à zapper, c'est mieux de se rendre. Il fallait pas nous chercher, fallait pas croire qu'on allait rester là, les pas croisés. À boire un thé quand la haine dure comme l'amitié. Tenace, elle persiste. Invite les ex noirs sur la piste. Les lettres sautent, t'es noir et italien. Pour s'installer, le kyste et les temps pires. Et si on dit pas nous, qui va le dire? Si on l'écrit pas, qui va le lire? Qui va s'en souvenir? Le pire, c'est qu'on n'est pas sûr, ça serve. Trahir, filer la gerbe. Fuir n'existe pas. Trop de gens courtisent GGN, sème la gangrène sur Mars. Pendant 10 ans, j'ai porté ce nom avec fierté. Maintenant, j'hésite à le prononcer. Jamais l'idée ne m'a effleuré, fané. La rose du sud s'éteint. Même Notre-Dame pleure. Sous la chaleur, les cœurs flétrissent. Toujours le front sur la peur de l'autre donne des ailes. On se sent moins seul au pluriel, la tête pleine de rien. Les corps remplissent des bulletins criminels. Les oubliés plient, l'état jouit. Les jeunes jouent les bandits, les parents triment, fusent la vie. Avec un job de jour, un job de nuit, un mec sur trois me vise. Ça fout les glandes, pense qu'il y en a plus d'une centaine auxquelles je fais la bise. Ils cachent un couteau dans leur manche, le soupçon plane désormais. À tout moment, sur saint fait, quelqu'un peut me saluer. Du genre salut poteau, ciao enfoiré, même caché. Les bofs m'auront pas, la fierté du hip-hop sera pas la honte du pays. Je le dis en vrai, mais je croise les doigts, les mains aussi, je prie pour la première fois que la catin d'aujourd'hui redevienne princesse d'autrefois.
De retour sur les ondes de Sequoia FM 88.3 à Québec, c'était le rappeur dont je suis incapable de prononcer le nom.
Shuriken avec Manifeste. C'était une autre pièce en honneur au moins de l'histoire des Noirs. Même oui, si Shuriken...
Il est pas blanc, lui?
Non, il me semble qu'il est maghrébin, mais il vient d'un... C'est quand même... Il faudrait pas oublier que le hip-hop est né, selon une des versions les plus répandues, dans le Bronx, à travers les latino-américains, mais surtout les afro-américains. Fait que ça en fait pas mal avec le reggae, un porte-étendard de l'histoire des Noirs.
Ouais.
Il y en a qui poussent avec le jazz, le blues. Mais là, les identitaires vont dire « Oh, c'est ça, attribuer donc toutes les musiques aux Noirs.
» Ben...
Mettons qu'ils ont fait beaucoup de jobs dans le domaine.
D'accord, oui, effectivement. Du côté de la bonne musique, bon, il reste le country.
Encore là, il y en a beaucoup qui font beaucoup de liens entre le country, le vieux, puis le blues. Tu sais, ouais, au niveau des paroles, puis tout ça. Ouais. Ce qui me fait croire, ce qui me fait dire que c'est pas ta couleur de peau qui te fait chanter, c'est ta réalité, là, c'est autre chose. C'est dans quoi tu vis qui fait comment tu chantes, là.
Oui.
C'est pas la couleur de ta peau, bordel.
Oui, oui, ben c'est les conditions d'existence qui, voilà. Qui conditionnent tout le reste. Parlant de conditions d'existence, dans les conditions d'existence relativement importantes, il y a le logement.
Oui, 0,6.
0,6.
Je l'ai écouté.
Tu l'as écouté, oui. Non, mais écoute, mercredi dernier, il y avait une conférence de presse suivie d'une activité publique où le FRAPRU, le Front d'Action Populaire en Réaménagement Urbain, lançait le dossier noir sur le logement et la pauvreté. En fait, il faisait une conférence de presse pour dévoiler les chiffres et les données locales de ce dossier noir-là. Et donc voilà, avec ces groupes de Québec, pour parler de la réalité à Québec, des locataires. Les locataires qui forment grosso modo la moitié des ménages de la région, un peu moins de la moitié des ménages de la région, et qui sont dans une situation qui, ma foi, n'est pas nécessairement reluisante, et bien que ce soit légèrement amélioré depuis un certain temps. Et donc, voilà, il y avait quand même pas mal de journalistes dans la place, aucun média électronique, ni radio, ni télé, et plusieurs journalistes écrits, mais dont certains n'ont jamais vu leur papier publié, notamment dans Le Soleil. Alors, on a vu... On a pu vous lire dans
c'était
les...
qui du Soleil pour le fun?
Je me souviens pas de son nom, c'est un, ouais. C'est un monsieur de la cinquantaine.
Ah, c'est un monsieur.
Mais donc c'est ça, et puis on a pu lire dans le Journal de Québec un papier, dans l'Impact Campus et dans le Québec Hebdo, mais c'est pas mal tout. Alors, voix de fait, n'écoutant que son courage...
Et son cœur.
Et son cœur. Alors voilà, hein. Tendez l'oreille, on parle de vous, on parle aussi de la voix des sans-voix, puis qu'on voulait se faire porte-parole des mouvements sociaux et tout. Alors voilà, on vous a ramené résumer ce qui suit de cette conférence de presse. Et bon, je vous avertis tout de suite, j'aime beaucoup le groupe qui joue en background, mais je l'ai choisi parce que je voulais que ça symbolise en fait ce qui se passe dans la tête d'un rédacteur en chef lorsqu'un groupe social fait une conférence de presse. C'est-à-dire, on pense à d'autres choses.
Bonjour, bienvenue à la conférence de presse qui est donnée par le FAPRU, le Fonds d'action populaire en réaménagement urbain au cœur complet, et c'est le groupe membre de la Ville de Québec. Moi, mon nom, c'est François Saillant. D'abord, je suis coordonnateur du FAPRU. On vous a invité aujourd'hui pour présenter les données locales d'un dossier noir sur le logement et la pauvreté que le FRAPRU a rendu public et à partir duquel on fait une tournée présentement à travers le Québec. Donc, ce qu'on peut tirer de manière générale comme portrait, c'est que la situation du logement à Québec, des locataires, je devrais dire, s'est davantage améliorée à Québec que dans le reste du Québec. Ça, c'est le premier constat qui se tire. À l'échelle du Québec, le nombre de ménages locataires dans cette situation-là, qui payent plus que 30 % a augmenté. Légèrement, mais a augmenté, alors qu'à Québec, il a baissé. Il est passé de 40 485, donc 40 500 à peu près, qui était en 2001, à 37 905 en 2006. C'est à peu près 2 500 ménages de moins qui perdent plus que 30 % de leurs revenus pour se loger. Donc ça, c'est la bonne nouvelle qu'on peut lire là-dedans. Mais attention. Attention parce que le nombre demeure encore élevé. Là, quand on dit 37 905 ménages locataires, bien, ça représente environ 35 % de ménages locataires. Quand tu dis qu'il y a 35 % d'un groupe qui paye plus qu'une norme, bien, il y a là un problème qui demeure, même si c'est moins que c'était auparavant. Et de ce nombre-là, il y en a 17 340 que c'est pas 30 % de leurs revenus qui payent pour se loger, c'est 50 % et plus. Et quand tu es rendu à 50 %, ben c'est bien évident que là, tu coupes dans d'autres besoins essentiels et il y a des besoins qui sont plus facilement compressibles que d'autres. Et habituellement, dans les besoins qu'on considère compressibles, il y a une nourriture. C'est quand même pas mineur comme problème de devoir couper dans la bouffe pour arriver à te loger. Sur les 37 905 ménages de retraite qui payent plus que 30 % de leurs revenus pour se loger, il y en a 7 030 qu'eux autres, c'est 80 % et plus de leurs revenus qui vont au logement. 80 % La norme est 30 % là. Imaginons-nous avec le 20 % qui est la plupart du temps 20 % d'un très petit revenu, ce qui te reste pour tous tes autres besoins essentiels. Donc, il y a encore un problème, même s'il est moindre, il y a encore un problème qui est important. Deuxième chose, qu'est-ce qui explique que le nombre de ménages locataires en difficulté a diminué à Québec? Ben pour nous autres, l'explication est assez évidente quand tu regardes les chiffres. C'est la croissance économique qui s'est vécue grosso modo du milieu des années 90 au milieu des années 2000, donc jusqu'au recensement de 2006, qui a fait en sorte de faire fondre ce nombre de ménages locataires en difficulté. Et si on regarde du côté du revenu, comment le revenu a augmenté? On a comparé ce qu'on appelle le revenu médian. Le revenu médian, c'est sur une échelle de 100 personnes à 50e personne. Et là, ce qu'on s'aperçoit quand tu regardes les données, c'est que le revenu médian des locataires a augmenté de près de 4 500 $ entre les recensements de 2001 et de 2006. C'est une augmentation de 17 %, ce qui est beaucoup. Pour vous donner un exemple, à l'échelle du Québec, l'augmentation était de un peu moins de 13 %. Donc, le revenu a beaucoup plus augmenté à Québec, ce qui explique pourquoi le nombre de ménages en difficulté a diminué. Et c'est beaucoup plus que le revenu a plus augmenté que l'indice des prêts à la consommation, qui durant la même période a augmenté d'un peu moins de 12 %. Je sais que ça fait bien des chiffres, ce que je vous donne là, mais c'est quand on fonctionne avec un recensement, c'est dur de faire autrement. Mais bref, pour dire que ce qui explique vraiment la diminution du nombre de ménages en difficulté, c'est la croissance économique et l'augmentation du revenu médian des locataires, et ça l'a compensé en partie pour l'augmentation des loyers. Durant cette période-là, de 2001 à 2006, les loyers ont quasiment augmenté de 16 % à Québec, ce qui là aussi beaucoup plus que l'indice des prêts à la consommation. Et pour certains locataires, ils l'ont pris dur, cette augmentation de loyer-là, parce que les autres, leur revenu n'a pas augmenté. Mais pour la moyenne des locataires, ben, ça a fait en sorte que le revenu a plus augmenté que le loyer. Or, et c'est principalement notre point ce matin, si c'est la croissance économique qui ont fait diminuer le nombre de locataires en difficulté, bien, on n'est plus en période de croissance économique, on est rentré en période de crise économique. Crise économique dont on ne sait pas encore ni la durée ni la profondeur. Là-dessus, ce n'est pas tous les économistes qui s'entendent, mais la plupart disent que quand même ça va faire mal. Et même si à Québec, pour l'instant, on ne la sent pas tellement la crise économique, tout le monde s'entend pour dire que Québec va la sentir, comme partout ailleurs au Canada, et je vous dirais partout ailleurs dans le monde à l'heure actuelle, cette crise-là va avoir des impacts à Québec. Et là, on peut penser que si c'est la croissance qui a permis de faire diminuer le nombre de ménages en difficulté, bien la crise, elle, va faire augmenter le nombre de ménages en difficulté. Et à notre avis, l'impact va être d'autant plus majeur, puis c'est la troisième mise en garde qu'on fait sur les données, que Québec est encore dans une profonde pénurie de logements locatifs. Tu sais, si on dit que Québec, ça s'est davantage amélioré entre 2000 et 2005 du point de vue du revenu et du point de vue de la diminution du nombre de ménages locataires en difficulté, bien, par contre, la pénurie de logements locatifs, à l'heure actuelle, est pire à Québec qu'elle est ailleurs dans les autres régions métropolitaines. Le taux de logements inoccupés, d'après le dernier rapport de la Société canadienne d'hypothèque et de logement qui a été publié à la fin de 2008, le taux de logements inoccupés à Québec est de 0,6%. 0,6%, c'est 5 fois moins que le taux normal qui est 3%. Et pour vous dire, donner un comparable, en 2003, tout le monde s'entendait pour dire qu'il y avait une crise du logement à Québec. Tout le monde, là. C'était pas le chef de plus qui disait ça, c'était tout le monde. Or, le taux de logement inoccupé, c'était près de là, qui allait 0,5. En 0,5, 0,6, on peut se dire qu'il n'y a pas de grande différence. Pourtant, à l'heure actuelle, il y a plus grand monde qui parle qu'une crise à Québec, mais il n'y a pas plus de logements locatifs qu'il y en avait. Et là, nous autres, on est d'autant plus inquiets que là, tu as à la fois une crise économique qui commence, dont on connaît pas, on ne sait pas encore tous les effets, et de l'autre côté, tu as une pénurie de logements locatifs qui dure et qui risque de durer encore longtemps. Et là, on a un problème, on se dit, il y a peut-être là un cocktail explosif. Nous autres, ce qu'on pense, et surtout les intervenants du milieu s'entendent là-dessus, quand je dis tous les intervenants du milieu, là, c'est les organismes communautaires, mais aussi les municipalités, s'entendent pour dire que ça prend un plan de développement du logement social sur une période de 5 ans. Dans les dernières années, le gouvernement du Québec a fonctionné budget par budget. On nous a annoncé un budget de 1000 logements, un budget de 1000 logements. Là, tout le monde se dit qu'il faut avoir un peu plus d'horizon que ça. Au frappé, nous autres, on souhaiterait que ce plan-là soit vraiment très ambitieux. On pense que si on voulait vraiment s'attaquer à un problème de cette ampleur-là, autant du point de vue du nombre de ménages qui demeurent en difficulté que du point de vue de la rareté de logements, ce que ça prendrait, c'est 50 000 logements sociaux sur une période de 5 ans. Cela étant dit, il y a un engagement électoral qui a été pris par le premier ministre du Québec lui-même. M. Charest, durant la campagne électorale, s'est engagé par lettre à financer, effectivement, avoir un plan de financement de 5 ans de logements sociaux à la hauteur de 3 000 logements sociaux par année pendant 5 ans. Donc, ça veut dire 15 000 logements en 5 ans. Ça ne répond pas à notre demande de 50 000 logements, mais on dit au moins, il faudrait qu'ils respectent cet engagement-là. Et au moins, s'ils respectaient cet engagement-là, ben on serait en meilleure position qu'on l'était auparavant pour faire face à la situation. Par ailleurs, le dernier budget fédéral, à travers tout le tralala de mesures qui ont été annoncées, dont plusieurs faisaient pas mal plus l'affaire des banques que du monde ordinaire, il y avait quand même certaines annonces qui touchaient le logement social. Et là, on annonçait des sommes de 475 millions de dollars qui pouvaient servir à des réalisations de logements sociaux et que ces sommes-là pourraient être utilisées par les provinces. Au Québec, on pense que ça devrait donner quelque chose comme 120 millions de dollars que le gouvernement du Québec n'attendait pas. Quand M. Charest a pris l'engagement de faire 3 000 logements sociaux par année, il ne savait pas que le budget fédéral allait annoncer des nouveaux argents. Et d'autres ont dit que ces argents-là pourraient servir à faire plus que 3 000 logements. D'ailleurs, M. Charest, dans sa lettre, utilisait l'expression « au moins 3 000 logements sociaux ». Ben, au moins 3 000 logements sociaux, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut en faire plus. Et l'argent fédéral permettrait d'en faire plus, on pense, un petit peu moins que 1 000 logements par année de plus. Ben, Là, tu te rapproches du 4000 et ça commence à être plus intéressant. Donc, on veut vraiment, d'abord, qu'il y ait des annonces dans le budget. On veut qu'il soit sur 5 ans et on veut que ça respecte au moins l'engagement pris par M. Charvet, plus la part des agents fédéraux qui reviennent au Québec, ce qui permettra d'être plus en mesure d'affronter le problème.
Donc, c'était François Saillant lors d'une conférence de presse mercredi dernier à Québec. Évidemment, le Frappru n'est pas complètement innocent et naïf. Le mouvement sait bien que c'est pas strictement à coup de conférences de presse et d'arguments bien balancés qu'on réussit à obtenir des choses. C'est pour ça, notamment, que le Frappru s'est jamais contenté de ça, a toujours retenu à construire un rapport de force aussi autonome que possible. Et dans ce contexte-là, c'est sûr, il y a une tournée des différentes régions du Québec pour présenter le dossier noir, faire un maximum de sensibilisation, essayer de faire passer le message dans les médias, mais aussi organiser des assemblées avec les locataires, comme il y en a eu une mercredi dernier. À l'agiter avec projection de films. Mais il y aura aussi, évidemment, des actions. Et dans les quatre coins du Québec, il y a des groupes qui se mobilisent. Et il y aura une manifestation nationale à Montréal samedi le 28 février 2009 pour du logement social dans le budget. Alors, ce sera comme le point culminant de la campagne prébudgétaire du Frappru. Bon, évidemment, c'est toujours la campagne prébudgétaire, la campagne de pression pendant les élections, la campagne de pression après les élections, la campagne de pression avant le budget, la campagne de pression après le budget. Ça arrête jamais. Mais bon, bref, toujours est-il qu'il y a une manifestation pour appuyer les revendications qui étaient présentées donc dans le reportage qu'on vient de vous faire entendre. Donc, manifestation à Montréal, samedi le 28 février 2009. Il va y avoir un départ de Québec, un autobus qui va partir tôt le matin et qui va revenir pour l'heure du souper. Alors, si vous voulez réserver votre place, c'est totalement gratuit. Vous pouvez composer le 418-522-0454 et parler à Nicolas ou Véronique. Et ça, c'est le numéro de téléphone du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, un des groupes membres du Frappru à Québec. On verrait trois groupes qui vont monter à Montréal le samedi 28 février.
Ouais. On va enchaîner avec une spéciale dédicace encore une fois à toutes les femmes noires de Québec qui nous écoutent, avec encore du Phyllis Dillon, mais une autre pièce magistrale. Thank you.
Bon sang, on vit en société, on pourra-tu avoir des moyens collectifs pour organiser cette société-là?
Oh, never hit your grandma with a shovel.
Vous écoutez, voix de paix!
Ouais, frappez jamais vos grands-mères avec des pelles.
Donc, de retour sur les ondes du 88.3 à Québec. Ben, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, il y a Droit de parole, le journal communautaire du centre-ville qui vient de sortir son édition de février 2009, qui est dès maintenant disponible, sera probablement incessamment disponible dans votre boîte à mail et disponible dans quelques présentoirs au centre-ville. Numéro qui appuie sur le 35e anniversaire, en fait, de Droit de parole. Ben, c'est cette année, en fait, que ça va faire 35 ans qu'ils publient parce qu'ils viennent d'entamer le volume 36. Et on a un texte de Marc Boutin en une qui explique ça. Il y a 35 ans, à l'époque, le besoin d'un journal pour raconter comme du monde les luttes du mouvement populaire se faisait sentir. Donc ça, c'était il y a 35 ans. Aujourd'hui, ben, le besoin de prendre le droit de parole est toujours aussi pressant. On le voit, par exemple, avec toute l'histoire d'essayer de faire comprendre quelque chose aux journalistes sur les questions du logement. On voit que c'est toujours aussi important d'avoir
c'est
nos propres
complexe.
Médias. C'est complexe. Et évidemment, bon, un projet comme ça, de faire contrepoids finalement à la bêtise médiatique, ben, ça se carbure souvent, en fait quasiment exclusivement au jus de bras militant, et ça nage dans les eaux troubles de la précarité financière extrême, un petit peu à l'image des gens qu'on défend dans les pages de ces journaux-là. D'où l'importance de célébrer les 35 ans du journal, mais aussi d'amener un petit peu d'argent neuf pour boucler le budget. D'où aussi le cabaret militant de samedi prochain, où il y a 15 artistes engagés qui s'unissent pour faire honneur aux doyens de la presse libre de Québec. Alors, c'est le cabaret des luttes populaires. Donc, ça va être samedi 21 février 2009 à 20h. Les billets sont 10$ en prévente et 12$ à l'entrée. C'est au Café-Bar L'Agité ou d'autres. Café-Bar L'Agité.
C'est
le centre du monde pour célébrer le 35e anniversaire du journal Droit de parole. Alors, en vrac, puisque bon, on sait que c'est pas pour ça que vous allez aller là, c'est parce que vous êtes solidaire avec le journal, mais quand même, ceux et celles qui sont pas solidaires avec le journal, qui veulent savoir s'ils vont passer une bonne soirée.
C'est mieux d'être solidaire avec le journal, personnellement.
Ça dépend des goûts. Non, mais beaucoup de gens très bien là-dedans. Les slams d'Edmé Étienne sont super cool. Il y a Bernard Grondin, Véronique Garneau-Allard, Gabriel Boutillier, Hélène Matt est super cool, Hélène. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je
connais pas.
Hélène, tu vois,
qu'est-ce Hélène qu'elle était... fait? Des slams, de la musique,
oh, Hélène
la
faisait
poésie.
De la poésie avant de faire du slam, mais elle faisait aussi du dessin et tout. C'est elle qui a fait les premières bannières du groupe anarchiste. Émile Henry était à... elle était à l'Îlot Fleury pendant super longtemps. C'est elle qui était coordonnatrice de l'Îlot Fleury pendant le Sommet des Amériques. Puis, c'est quelqu'un de super bien. Hélène qui fait des affaires, mais vraiment pétée sur scène. Véronique Rioux aussi, qui à la même époque était alternative, par exemple. Pierre Lavallée, Annie Volant, qui est de Métienne. Gab Paquette, qui fait dans la chanson absurde. Je suis pas capable de prononcer son nom, je suis désolé. Sylvie Nicolas, Stéphane Robitaille, lui aussi, qui était... Un grand fan de Brassens, mais lui aussi était dans le groupe Anarchiste et Mélanger, en même temps qu'Hélène. Fred Carrier, Marc Boutin, DJ Murdoch et d'autres surprises vont avoir notamment des projections des... une des plus percutantes des 35 dernières années. Alors, peut-être qu'on va voir le... Non, probablement qu'on le verra pas, puis j'en parlerai pas, ils vont être pas contents. Donc voilà, samedi 21 février 2009, dès 20h, je vous le dis, n'écoutez pas Farouko qui aime la oeil, ça va être un très bon show, ça va être le fun.
Tu me connais mal, Phébus.
Ouais, bon, enfin, bref.
Je fais pas des soirées oeil, mais reggae, ok, là.
Oui, je sais, mais tu aimes la oeil. Moi, quelqu'un qui aime la haie, c'est suspect, ça peut pas juger.
Faudrait que tu ma blonde à ce niveau-là, elle te contredirait en ondes s'il le fallait.
Là, ta blonde n'est pas là, ok?
Zut.
Donc,
j'aimais-la quand on a besoin.
Samedi 21 février 2009, dès 20h au Café Bar L'Agité, 10$ en pré-vente, 12$ à l'entrée. Vous y allez parce que vous supportez droit de parole ou parce que vous aimez la bonne musique et la poésie tripante, ou les deux. Et le mot de la fin pour Marc Boutin, artisan de toujours de droit de parole, on l'a d'ailleurs eu ici en onde à quelques reprises, dans le texte en une de l'édition courante. Alors, notre Marc National qui nous dit que droit de parole pour les nouveaux, les nouvelles, les petits genoux comme nous, c'est 325 parutions, 4000 articles, 1000 collaborateurs permanents, camelots, photographes, caricaturistes, BDS, analystes, publicistes, monteurs, journalistes, militants, écrivains, administrateurs et polémiqueurs, il en passe des meilleurs. Bref, une impressionnante lignée qui a su pendant plus d'un tiers de siècle garder le cap résolument à gauche sur l'échiquier politique local, ce qui, en soi, est tout un fait d'armes. Tout un exploit, en effet, quand on songe à cette ribambelle de magouilleurs, comploteurs, susus de balustres, organisateurs de parties pour touristes, démolisseurs d'églises, journalistes complaisants, animateurs de radio poubelle, politiciens démagogues et amateurs de cérémonies politico-militaires avec figurants en uniforme d'opérette, qui grenouillent aujourd'hui plus que jamais sur la scène publique de notre belle ville, une ville devenue laide comme une banlieue depuis les fusions forcées. Je saute un petit peu, vous lirez le reste sur votre copie. En cette 35e année de production, droit de parole demeure un outil essentiel pour contrer tout ce qui tend vers l'apathie politique. Apathie qui, chez nous, bascule trop souvent dans un conservatisme réactionnaire et borné, pensons au FM 93, précurseur des pires dérives de l'autoritarisme. Face à cette tendance bien locale, droit de parole doit, dans les limites de ses capacités, en tenant compte de sa mission auprès des groupes populaires, incarner une disposition révolutionnaire à l'écrit comme force pure et énergie intraitable, qu'on se le dise et bon anniversaire. C'est beau l'enthousiasme de la jeunesse éternelle. Samedi 21 février 2009, dès 20h au Café Bar L'Agité, le Pestac de droit de parole, le cabaret des luttes populaires, et c'est ce qui va mettre fin à cette édition de Voix de fait. C'était Nicolas en compagnie de...
Oh, désolé Jenny, je vais couper ton micro.
Jenny.
Et Farouk, qui n'aime pas la haie. J'en passe parce qu'il faut passer du francophone. Alors, ben, c'est tout pour cette semaine. On se revoit en pub et à la semaine prochaine. Sinon, allez sur notre blog www.voixdefait.com.